Salut, c'est Bilal Hassani, vous écoutez Pop Pop Pop, alors Pop Pop Pop, c'est parti. Yeah.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Comme c'est aujourd'hui la journée mondiale des solitudes, si je vous le promets, je n'invente rien, c'est bien la journée mondiale des solitudes coincée entre la journée du démon de pneus et celle du four à pyrolyse, je me dis que c'est aussi un peu ta journée, ami auditeur, trice, que pour l'occasion je me permets de tutoyer. Car est-il activité plus solitaire que l'écoute de la radio, je te le demande. Et oui, je sais ce que tu vas me répondre, gros dégueulasse, mais non, pop-pop-pop, pas de ça Lisette, nous sommes entre gens de bonne compagnie, quoi merde. Oui, l'écoute de la radio réconforte tous ceux qui n'ont d'autre choix que la solitude. Et nous nous sommes fixés pour mission d'égayer la vôtre, vous qui nous écoutez depuis votre salon, votre voiture ou votre EHPAD. Aujourd'hui, comme tous les jours, vous allez être servis puisque nous allons parler d'un genre de cinéma que nous affectionnons particulièrement, le nanar. Et nous vous décrasserons les Portugaises avec un groupe californien aussi puissant et ravageur que subtil et délicat, comme pour chauffer la piste avant l'émission spéciale de demain en compagnie du mythique Jimmy Page. Je veux bien sûr parler des Rival Sons, venus nous faire un petit bonjour avant leur retour en France sur scène début février. Bref, du cinéma comme on l'aime, de l'humour et de la bonne musique. Le cocktail, pop, 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 parfait, c'est parti mon kiki.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, le petit parasol qui vient compléter ce cocktail pop. Charline Roux, bonjour Charline.
La phrase de conséquence est vous êtes « You can stay under my umbrella » Elle est là.
Et avec Antoine plaisir, de Caunes. Avec nous également Stéphane Bergouniou et Jean-Marie Nizan venus nous présenter le doc « So bad, it's good ». Bonjour messieurs.
Bonjour.
Je traduis, hein, c'est tellement mauvais que ça en devient bon. Au menu également de Pop Pop Pop, les Rival Sons, comme je le disais. Le groupe américain qui sera tout à l'heure sur la scène mythique de Pop Pop Pop. Mais avant ça, messieurs, il existe ici une question encore plus trash qu'une réplique du nanar maîtresse particulière.
En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule.
Antoine de Caunes, sur France Inter.
Et cette...
Ah oui, c'est cool.
Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture ? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses mirofistéliques, paracuellantes, fantasquilopeuses, voire stamiteusantes. Parmi mes préférées, il y a celle de Jean-Baptiste Torret, qui assure la BO de votre doc.
Pour moi, c'est quoi la pop culture ? En fait, c'est... Je dirais que c'est quand, vous savez, Malraux, il parlait des amateurs d'art. Il disait, le problème, il y a les amateurs d'art, et puis un jour, on est devenus des consommateurs de culture. Voilà, ce qui est terrible. Aujourd'hui, on vit, à mon avis, une époque, beaucoup de consommation de culture, mais pas trop d'amateurs d'art. Et moi, pour moi, la pop culture, c'est le moment où l'amateur d'art commence à pénétrer, on pourrait dire, dans l'espace commun et collectif. La classe moyenne qui est capitale. Sans classe moyenne, il n'y a pas de culture, quoi. C'est pas les experts, c'est pas les demeurés, c'est dans l'entre-deux. Et pour moi, c'est ça, la pop culture. C'est quand l'intelligence ou l'art, en fait, pénètre l'espace commun, quoi.
Voilà pour Jean-Baptiste Torret et pour vous, messieurs, Stéphane Bergouniou.
Alors, je vais sans doute être moins malin que Jean-Baptiste. Hein. Je ne sais pas, je dirais que c'est peut-être une culture dont on n'est pas complètement certain, une culture qu'on n'a pas encore rangée complètement dans les étagères et voilà, qu'on aime, mais bon, il y a un petit doute encore, peut-être.
Très bien, Jean-Marie Nizan.
Alors, je serais pas aussi malin que Jean-Baptiste non plus. C'est une culture qui est devenue une culture pour tous, donc on ne sait pas trop si c'est encore de la culture.
Ah, pas mal ça.
Très bien.
Hein, on valide tout à fait. La pop, la culture, la pop culture et les nanars dans la pop culture. On va en parler tout de suite dans Pop Pop Pop. Juste après le tout nouveau morceau du producteur californien Nick Waterhouse, Song for Winners.
Dance.
Song for Winners, une chanson pour les gagnants. Ça nous parle, ça. C'est un tout nouveau morceau signé Nick Waterhouse.
C'est vrai qu'on a la win, hein, quand même.
On a la win-win. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Stéphane Bergougnou et Jean-Marie Nizan pour parler nanar. Mais attendez, qu'est-ce que c'est qu'un nanar? Charline, au lieu de faire un pop portrait,
à base de pop,
pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un nanar à base de nanar?
Écoutez Antoine, plusieurs théories s'affrontent. Il y a plusieurs définitions, ou en tout cas quelques nuances. Pour les uns, comme l'institution Pivot, nanar, c'est un dérivé légumier, soit un navet, un légume fade, ennuyeux, comme un film devant lequel on peut ronfler. Mais la nuance existant entre navet et nanar, c'est que le nanar est, lui, aimable et divertissant. Mais selon le petit Robert, le terme nanar daterait du 19e siècle et viendrait donc d'un vieux mot d'argot, soit panard, qui signifie vieil homme. Ce qui en dit long sur la fraîcheur du film en question. Alors je le concède, hein, ma définition préférée vient tout droit du site référence la Bible des films malades, soit Nanarland. Une définition attribuée, je cite, à un amateur. Le nanar, ce serait donc, nouvelle citation, un navet tellement navet que ça en devient un dessert. Alors en essayant de condenser un peu tout ça, le nanar, ce serait donc raté mais sucré. Du coup, c'est très plaisant et à forte dose, ça peut même devenir obsédant.
Mais attendez. Pour vous, messieurs, c'est quoi un nanar, Stéphane Bergougnou?
Alors, un nanar, je dirais qu'il est, on va pas appeler ça un panard, hein, mais un nanar, il y en a deux sortes en fait. Je pense qu'après avoir un peu étudié le sujet, il y a d'un côté les bonnes vieilles comédies très mal faites, faites avec les pieds, Arrête de ramer, t'attaques la falaise, Les deux enfoirés à Saint-Tropez, des trucs qui sont faits presque avec cette conscience-là. Et puis il y a le summum du nanar qui est le so bad it's good, c'est-à-dire des gens comme Tommy Wiseau, des gens qui font The Room ou des réalisateurs qui se lancent dans des aventures avec passion, et qui pensent faire des chefs-d'œuvre, sauf que c'est tellement mauvais que du coup
que ça en devient bon. Et vous, Jean-Marie Nizan?
Oui, mais c'est un petit peu ça. Mais moi, ce que je retiens, c'est que c'est la chronique d'un échec. En fait, il y a quelque chose d'assez douloureux. Et en fait, c'est des films qui ont tout pour réussir. On pourrait se dire qu'ils ont tout pour réussir, et en fait, tout se passe mal, et c'est une catastrophe à l'arrivée. Donc, il y a quelque chose d'assez, c'est assez touchant en fait. Et quand on est spectateur de ces films-là, voilà, on est en empathie avec avec les gens qui souffrent derrière les caméras.
Alors le nanar, c'est tellement mauvais que ça en devient bon, mais c'est aussi ça la pop culture. Et ben justement, on va plonger un peu dans votre pop culture, savoir si elle est aussi nanar que ça. À vous Stéphane Bergougnou et Jean-Marie Nizan, c'est l'heure de votre pop liste. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte, donc on n'a pas lâché vos deux choix pour obtenir ceci. Pour le livre, vous d'abord, Jean-Marie Nizan, vous avez choisi « Au cœur des ténèbres » écrit par Joseph Conrad en 1899. Charline, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est tout sauf un nanar, ni le livre, ni son adaptation au cinéma par Coppola.
Effectivement, Antoine. C'est une longue nouvelle qui raconte le voyage de Charles Marlowe, un jeune officier de la marine marchande britannique qui remonte le cours d'un fleuve au cœur de l'Afrique noire.
Jean-Marie Nizan, pouvez-vous nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
Volontiers. Il était le seul de nous encore voué à la mer. Le pire qu'on pût dire de lui, c'était qu'il n'était pas représentatif de sa classe. C'était un marin, mais aussi c'était un errant. Alors que la plupart des marins mènent, pour ainsi dire, une vie sédentaire, leur esprit est d'espèce casanière, et ils portent toujours leur foyer avec eux, le navire. Et de même la mer. Un navire est à peu près comme un autre, et la mer est toujours la même.
Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Maintenant, expliquez-nous pourquoi vous aimez tellement ce livre. Qui n'a rien d'un nanar, vraiment.
Non. Moi, c'est même un chef-d'œuvre. Ouais, mais
tu l'as choisi parce que tu trouvais que c'était un nanar, quoi.
C'est un panard, ouais. En fait. Non, c'est un film monde, un livre monde au fond, donc où tout se raconte, la condition humaine, la politique, la société, il y a tout dans en quelques pages. Et la puissance de la transcription par Coppola qui en fait un film de guerre au milieu du Vietnam. Ouais. Pour moi, c'est la preuve que ce texte-là, il est adaptable et donc il est matrice de quelque chose, quoi.
Bien. Alors, j'ai un livre, je suis ravi. Maintenant, il me faut un film. À votre tour, Stéphane Bergugno, votre film culte, c'est Rusty James, Rumblefish, en VO, réalisé par Francis Ford Coppola. On y revient, sorti en 84. Charline, voilà Coppola. Donc, ce Rusty James est-il aussi rouillé qu'il le prétend?
Mais tellement pas, puisque Matt Dillon et Rusty James, ce qui est déjà en soi un gage de qualité, et son frère Motorcycle Boy, le chef de bande, c'est Mickey Rourke, pré-bistouri, ce qui est drôlement cool aussi. Le grand frère s'absente, alors le petit essaie de devenir Kaïd à la place du Kaïd, mais c'est compliqué.
Il y avait déjà des bandes pour mômes, et moi j'étais chef dans les emballeurs. Ah ouais, les bandes dans ce temps-là, ça comptait.
Ouais, ça comptait surtout pour les hostos du quartier.
Ah, et toi, tu vois, t'es pas infidèle. T'as pas l'esprit de
corps. Non, ça va, je viens. Et si tu crois que ce serait une belle bagarre, là tu te gourres complètement. D'abord parce que ça va se passer entre Biff et toi, et que nous on regardera. Et en plus, je peux te dire que même pour Maté, il va pas y avoir foule.
Bon, alors écoutez-moi. Barrez-vous et revenez tous à 9h30, je suis pas un lâcheur, vous le savez. Et Steve, on y va.
Rusty James de Francis Ford Coppola, film magnifique, mais quand on entend la bande-annonce en français, ça devient presque un nanar. Pourquoi?
C'est pas la vraie voix de Matt Dillon.
Non, pas la vraie. Pourquoi ce choix, Stéphane Bergugno?
Déjà, un film culte, c'est quelque chose d'un peu personnel, donc, mais pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre. Il y a tout. Il y a le montage, la narration parfaite, le noir et blanc, avec l'expérimentation de Coppola qui ne met des couleurs que sur les fameux Rumblefish, sinon tout le reste est en noir et blanc. La musique de Stuart Copeland qui est
batteur de police.
Voilà, l'ancien batteur de police qui est sublime, et cette quête de liberté, c'est quelque chose qui, dès que c'est sorti, je l'ai vu, je sais pas combien de fois, enfin voilà, le film culte par
Rumblefish, par excellence, de Coppola, à voir de toute urgence si ce n'est déjà fait, amis auditeurs. Alors qu'est-ce que j'ai un livre, j'ai un film, il me faut une musique maintenant. Jean-Marie Nizan, c'est votre tour, votre chanson culte, c'est celle-ci. Heroes, David Bowie, ça c'était en 77. Bowie, héros personnel?
Oui, héros personnel, non, c'est le héros de plein de gens, mais c'est quand même un grand monsieur de la musique. Et puis ce morceau-là, il est magnifique. Il y a tout, il y a la guitare de Robert Fripp, il y a Tony Visconti, il y a Bowie, il y a Brian Eno. Il y a une espèce d'adéquation parfaite entre plein de talents, une époque. Une situation politique, une histoire à raconter. Enfin, c'est une sublime chanson d'amour, je trouve.
Bien. Ma liste est presque complète. Quand même, je peux vous demander ça. Est-ce qu'il existe des nanars pour les chansons? Parce que je pense en particulier à ce remix de Heroes par David Guetta.
Il y en a, oui. Il y en a.
Il
y en a.
Merci.
On peut y arriver.
Merci pour cette précision. Stéphane Bergugno, pour la série culte, vous avez choisi Star Trek The Next Generation, créé par Gene Roddenberry, diffusé entre 87 et 1994 aux États-Unis. Charline, saviez-vous que je possédais une oreille de Spock, et sinon, voulez-vous la voir?
Oh, mais oui!
Regardez.
Oh, mais c'est vrai, franceinter.fr, venez donc voir cette...
C'est pas une oreille de Spock, ça?
Ah, si.
Alors.
Assez pointu, oui. C'est vrai que j'avais jamais remarqué.
Continuez.
Un siècle après les aventures du capitaine Kirk, c'est le capitaine Picard, Patrick Stewart, qui commande le nouveau vaisseau Enterprise, and they live the long and prosper.
Star Trek. The next generation is beaming aboard the airwaves. All the wonder, the excitement, the drama of Gene Roddenberry's original space odyssey.
Welcome to the Enterprise.
With all new adventures from the 24th century. With an all-new Enterprise.
This is nothing like any vessel I've seen before.
And an all-new crew.
Let's see what's out there.
Don't miss the all-new television adventures of Star Trek The Next Generation.
Alors là, du coup, comme la BO est en anglais, on comprend plus rien, mais c'est pas grave.
Il y a plus de respect pour Star Trek que pour Coppola, quand même.
Ouais. J'ai l'impression, c'est ce que révèle, en tous les cas, Ghislain Fontanus, notre réalisateur. Vous savez faire le salut vulcain, Stéphane Bergugno?
Tout de suite.
Ah, tout de suite, comme ça?
Ah bah, direct.
Franceinter.fr, je répète.
Jean-Marie?
Les long and prosper.
Moi, je suis moins bon, j'ai un petit problème mécanique, mais je suis pas vulcain.
Charline? Bravo, oui. Regardez comment il sort tout seul, celui-là.
Rappelons le principe, c'est l'index et le majeur collé, de l'autre côté, la nuit.
Ça fait un V,
parce qu'à la radio,
ça fait un V, quoi.
Oui, mais on peut pas le faire, pas comme ça.
Non, un V.
Il y a une règle à respecter sur les doigts à coller.
Alors, pourquoi Star Trek?
Je sais pas, tout ce dont on a parlé, c'était plutôt nanar, ça, non. Quoi, c'est sublime. Mais c'est Picard, surtout, le nouveau capitaine.
Picard.
Ouais, Picard.
Il a une Picard en face de vous, faites gaffe.
Hein. Il est d'origine française, son frère est viticulteur en France.
Charline aussi. Donc pourquoi Star Trek ?
C'est un modèle. Enfin, on est plusieurs. D'ailleurs, Stéphane Xiberas, qui apparaît dans le documentaire sur les nanars aussi, est un grand fan de Star Trek. Et je sais que quand on est confronté à des problèmes dans la vie, on se demande comment on ferait Picard. Et ça se résout tout seul.
Et jamais Spock.
Mais Spock n'est pas dans Next Generation.
Ah, merde.
Eh oui.
Et l'oreille ?
Qui ? Et l'oreille ?
Et l'oreille de Spock.
Ah, aussi, il y a des Vulcains.
Oui, quand même. D'accord.
Okay. Mais, très belles oreilles, Picard.
Stéphane ressemble un peu à Picard.
C'est vrai. Je n'osais pas le dire.
Je n'osais pas le dire non plus.
Ouais. Oui, parce que Picard, Patrick Stewart, qui est aussi le professeur X dans les X-Men, quand même.
Bon, très bien. Alors, je résume. Au cœur des ténèbres, Coppola, Bowie, Star Trek. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça. The next generation
is beaming aboard the airwaves. Il y avait déjà des bandes pour mômes, et moi j'étais chef dans les emballeurs. With all new adventures from the 24th
century. Il était le seul de nous encore voué à la mer. Un navire est à peu près comme un autre, et la mer est toujours la même.
And an all new crew.
Let's see what's out there.
Et si tu crois que ce serait une belle bagarre, là tu te gourres complètement.
Ça sonne un peu comme un nanar, non ?
Un petit peu. J'ai hâte de voir le film.
Cette somme d'œuvres sublimes, regardez, mélangée par Ghislain Fontanus, hop, ça ressemble à un nanar. Bon, c'est pas grave. Les Beatles, je les encule, je préfère les Stones. Ce n'est pas une réplique de nanar, contrairement à ce que l'on pourrait penser. C'est un avis artistique exprimé à ce micro par José Garcia, premier rôle du nouveau film de Clint Eastwood, La Mule, si l'on en croit le site Allociné. C'est pas une intox, mais une info que je vous donne là. Et l'autre info, c'est que là, ici tout de suite, les Stones, on les écoute avec le morceau Street Fighting Man.
Oh,
Les Stones dans Pop 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 sur France Inter avec Street Fighting Man, l'hymne des Yellow Vests, pour le plus grand plaisir de José Garcia qui nous égoutte. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Bergougnou et Jean-Marie Nizan avec qui on va continuer à parler de Nanar à l'occasion de la diffusion de leur doc So Good It's Bad samedi soir à 22h30 sur Canal. Ce sera d'ailleurs une nuit du nanar présentée par notre camarade Augustin Trapenard. Alors on sait désormais qu'un nanar n'est pas un navet, si je comprends bien. Ça signifie qu'on ne sait pas qu'on réalise un nanar quand on est en train de le faire. On fait du nanar sans le savoir.
Les vrais nanars, les vrais So Bad It's Good, ouais, ils savent pas. Un réalisateur comme Tommy Wiseau, quand il démarre The Room, par exemple, qui va passer aussi dans la soirée, The Disaster Artist, qui est le film de...
Disaster Artist, c'est l'histoire de The Room. Ouais.
Voilà, c'est ça. Quand il réalise The Room, il fait pas ça pour faire un nanar, il fait ça pour faire un chef-d'œuvre. Donc c'est réussi, quelque part, mais un chef-d'œuvre du nanar.
Un film unique, voilà. Ça, c'est ça.
Un film unique, ouais. Où tout est mauvais, quand même. Tout.
C'est-à-dire qu'un film phénomène comme Sharknado, qui est intentionnellement conçu comme un mauvais film, nanar ou pas nanar, du coup, selon la définition
Intentionnellement, je ne sais pas. C'est-à-dire que le premier est une série B, voire Z.
Ouais.
Mais qui explose la baraque avec un phénomène qui le dépasse. Et là, ça devient une mécanique. Mais avant, je suis pas certain que le premier soit complètement cynique.
Rappelons quand même pour les non-initiés que c'est une tornade et un requin.
Des requins.
C'est quand même compliqué de se dire qu'ils ont fait ça en se disant que ça allait être génial.
Non, bien sûr, mais je pense qu'ils disent ça ils font le premier en se disant on va bien se marrer.
Les puristes n'aiment pas. Enfin, les puristes, c'est pas des nanars, c'est un peu. Voilà.
Mais alors justement, pour essayer d'affiner encore un peu la définition, un film qui fait exprès d'être mauvais n'est pas forcément un nanar.
Les puristes ne le valident pas.
Les puristes.
Il y en a.
Ils existent.
C'est-à-dire que quelquefois, quand un cinéaste a conscience de son manque de talent et qu'il continue à faire des films, il n'est plus sincère en fait.
Donc,
c'est toujours une question de sincérité au fond.
Donc le puriste, alors appelons-le le nanarophile, c'est lui qui décide si un film peut devenir nanar ou pas.
En quelque sorte, dans la nuit des nanars, la nuit Nanarland, qui est géniale, qui est vraiment un événement hyper festif.
Qui est en fait la continuation de ce qui s'appelait avant la nuit du fantastique et de la science-fiction. Qui était dans le même esprit.
Oui, qui
est
dans le même esprit. Oui, c'est ça.
Et ils passeront jamais Sharknado, par exemple.
Ah oui.
Parce que, c'est parce que c'est fait un peu trop intentionnellement, justement.
D'accord.
Et si on va plus loin, qui élit le comité des nanarophiles?
Ah, ça.
Comment on fait pour avoir la carte de membre?
Mais je crois que c'est le public en fait qui gère tout ça et qui décide qu'un film sera culte ou pas culte, nanar ou pas nanar. Enfin voilà, c'est.
Il y a une question de plaisir quand même. Après voilà, un peu plus libéré quoi. Quand on regarde un mauvais film, la plupart du temps on s'ennuie quand même parce qu'il y a 6000, je sais pas, plus de 6000 films, je pense, qui sont faits par an. Dedans, la majorité sont pas très bons. La plupart du temps, on s'ennuie. De temps en temps, c'est tellement mauvais, même si c'est un peu intentionnel, qu'on y trouve de quoi s'amuser.
Rassurez-moi tous les deux, là, Stéphane, Jean-Marie, votre amour du nanar n'est pas tout opportuniste. C'est pas parce que vous deviez faire un documentaire, ça remonte à plus loin, j'imagine.
Non, on adore les mauvais films.
Vous aimez ça?
Oui, on n'aime que ça, même.
Plaisir, le bon cinéma vous ennuie.
Le
bon goût au cinéma vous emmerde.
Il y a Coppola qui est téléphoné au standard et qui n'est pas content.
Il n'est pas content qu'on pense que c'est un nanar.
Stéphane Bergougnou, Jean-Marie Nizan, vous diffuserez donc ce documentaire So Bad It's Good à l'occasion de la nuit du nanar culte qui a lieu ce samedi sur Canal+. Bande annonce.
Really great cinema is amazing, and in its own way, really bad cinema is also amazing.
Un nanar, c'est un film qui a été pensé, produit et réalisé premier degré.
Il y a peu d'endroits où le mauvais goût devient du bon goût. En cuisine, c'est compliqué quand même. On va pas se forcer à manger des trucs pas bons.
Alors, question bête, et je vous le promets sans absolument aucune arrière-pensée, mais un doc sur les nanars peut-il lui-même devenir un nanar? Et surtout avec la voix off de Damien Cabrespine, private joke.
Il est nanar.
Hein?
Il est nanar. En fait, on est, comme dit Stéphane Xibéras dans le doc, on est ce qu'on mange, donc on est ce qu'on regarde. Voilà, un documentaire sur le nanar, c'est un nanar. Et c'est assumé comme tel. Mais c'est un nanar qui fait réfléchir, hein, enfin, ou qui donne envie d'aller au cinéma, ou qui, voilà, qui est, le nanar peut être positif, c'est pas que négatif.
Un documentaire fait avec beaucoup de sincérité.
Oui, mais moi, je pense qu'on a fait un chef-d'œuvre. Mais on verra si samedi, quand il sera diffusé, tout le monde se barre ou rigole de tout ce qu'on a fait. Bon, voilà, on aura réussi.
Alors, résultat des courses après visionnage de ce documentaire irréprochable. Le nanar, c'est souvent le décalage entre l'intention de départ et le résultat final. Et ça implique donc, j'y reviens, de la sincérité et du premier degré. On est d'accord, ça c'est la base.
C'est important.
Oui. Ouais. Non, mais il faut des auteurs, en fait. Il faut des cinéastes, il faut des auteurs, il faut des acteurs qui ont envie de faire un film. Voilà. Et ensuite, c'est le désastre.
Alors justement, les figures tutélaires du monde des nanars, les Ed Wood, les Tommy Wiseau, les Roger Corman, est-ce qu'ils faisaient partie de votre panthéon perso?
Corman, oui. Parce que Corman, c'est beaucoup plus large que ça.
Il a inventé une économie.
Puis c'est un grand producteur, et puis c'est un découvreur de talent, et voilà. Mais sa façon de faire du cinéma est passionnante quand même. Donc c'est un monument de l'histoire du cinéma américain. Ed Wood, ça fait partie des choses qui m'ont bien fait marrer quand j'étais petit. Et qui continuent à me faire marrer d'ailleurs. Voilà. Mais c'est ça, le plaisir, c'est de rigoler, c'est de ressentir une émotion, quelle qu'elle soit. Et là, on se marre devant ces films-là.
Et parmi les artistes cités pour leurs œuvres dans le documentaire, il y a un cas particulier, un réalisateur adulé de notre côté de l'Atlantique, Paul Verhoeven, est conspué aux États-Unis pour son film Showgirls. Et on apprend dans le documentaire qu'il est le tout premier réalisateur à être allé en personne à la cérémonie des Razzie Awards récupérer ses 7 prix, en récompensant donc le pire. La notion de ce qui est nanar ou pas varie donc en fonction des pays.
Avec ce film, oui, parce que c'est un film qui critique l'Amérique ouvertement, donc on peut imaginer qu'il l'ait pas très bien pris. Ce qui était déjà le cas aussi avec Starship Trooper, voilà.
C'était d'autres accusations.
Ouais, voilà, d'autres accusations. Là, c'est vraiment sur le mauvais goût américain, le Showgirls, et bon. Quelque part, je pense que Verhoeven voulait faire un film de mauvais goût pour montrer le mauvais goût. Ils ne l'ont pas très bien pris. En France, on a peut-être un peu plus de recul par rapport à ça.
Est-ce qu'on aurait du mal à organiser une cérémonie comme les Razzie Awards en France? On a les Gérard pour la télévision, mais pour le cinéma, ou est-ce que l'esprit de sérieux a prédominé?
Ça existe, puisqu'il y a les Gérard, mais ça prend moins d'importance. Quoi. Ouais, on a moins dit d'ironie par rapport
à l'auteur.
Ouais, à l'auteur.
Et qu'on prend le cinéma un peu trop au sérieux aussi.
Peut-être.
Mais ça, je pense que ça dépend quand même de certaines. Enfin, à chaque culture, c'est nanar, je pense. Voilà. À chaque culture, son cinéma. À chaque culture, c'est nanar. Il y a des extraits de films turcs dans notre doc. On a fait traduire un...
Star Wars.
Star Wars. Turkish Star Wars. On a fait traduire un bout de dialogue par un Turc et qui était honoré de pouvoir traduire un film de avec cet acteur-là. Donc, au fond, pour lui, c'était pas un nanar. C'est un grand film turc avec un grand acteur turc. Donc, au fond, chacun...
Faut dire ce que c'est, quand même. Il projette Star Wars, l'original, il rejoue dessus, quand même. Et le tout filmé, comme si de rien n'était.
Mais comme si de rien n'était, absolument.
Ça passe très bien.
L'engouement pour le genre nanar en France est tel que chaque année au Grand Rex à Paris, les fans se réunissent pour la nuit qui leur est consacrée et que font les fans face à un tube, en l'occurrence un film avec Chuck Norris? Ils récitent les paroles par cœur, bien sûr, alors ambiance dans la salle.
Je vous préviens, attention, mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la cave.
Vous avez donc assisté pour votre documentaire à cette expérience collective du nanar avec la ferveur qui l'accompagne. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette expérience?
Oh bah bien. Bien.
Est-ce que vous connaissez les paroles? Est-ce que vous avez crié avec tout le monde?
Non, moi j'étais spectateur. Enfin, je filmais, donc c'était. Mais c'est passionnant à regarder. Et c'est vachement bien de se dire quand même qu'un film qui est mauvais, ou qui est un nanar, peut sortir des phrases qui sont aussi sublimes que celles-ci, quand même. Voilà, je mets mes pieds où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Ouais, c'est d'une écriture parfaite, quand même, quoi.
Ah oui, prochain convaincu. J'ai rencontré il y a quelques temps un cinéaste qui s'appelle Jim Cooper, dans le sud-ouest, en Aquitaine. Jim Cooper est auteur, réalisateur, interprète, monteur, cascadeur, producteur, compositeur, maquilleur. Ah non, ça c'est sa fille. Écoutez un extrait d'un des films de sa trilogie, La loi des maudits.
Tu as sans doute oublié que j'étais aussi chirurgien et que je sais me servir d'un scalpel.
Et doucement, ça c'était un rasoir.
Un peu de sang-froid, Jim.
Où est mon père?
Je suis Monsieur Longsmith. Et entrez donc. Je vais vous montrer les documents qu'il m'a signés.
tout ce que je vous dis que mon père ne serait jamais parti sans m'avertir. Jim, je veux savoir ce qui est arrivé à mon père.
Oula, alors juste au son, je m'adresse au spécialiste, nanar ou pas nanar ?
Ah oui, nanar, même si enfin, ça me rappelle un film d'Eastwood, mais...
Lequel ?
Un peu pitoyable ?
Peut-être. Oui, bah, tout de suite.
Nanar,
ouais, ah oui. Tout de suite. Donc... Pas, mais ça, c'est que, en fait, ça se ressent, nanar, immédiatement.
Oui, croyez-moi, ils sont magnifiques, ces films. Enfin, n'oublions pas la France, à laquelle vous consacrez de précieuses minutes de votre documentaire, à travers l'évocation d'Émile Cousinet, de Max Pécasse, entre autres, et bien sûr de Bernard-Henri Lévy, avec son cultissime Le jour et la nuit, et je m'empresse de préciser ici qu'il n'y a rien d'antisémite dans cette observation. Indépassable ?
Ah oui, compliqué quand même, oui. Ah oui, 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 compliqué. Mais là, mais c'est un film sincère, hein. Donc, bah, il est magnifique de ce point de vue-là.
On laisse quand même une chance à Ariel Dombal, dont Alien Crystal Palace sort, le nouveau film sort aujourd'hui. On laisse la porte ouverte.
Oui. Oui. Toujours, toujours laisser les portes ouvertes.
Il y a aussi le Vercingétorix de Dorfman, non ?
Oh,
avec Christophe Lambert.
J'ai volontairement tué ce souvenir.
D'accord, c'est le nanar, c'est pop, c'est à découvrir samedi sur Canal+, dans la nuit du nanar, dans laquelle on pourra découvrir donc So Bad It's Good, votre documentaire. Stéphane Bergougnou, Jean-Marie Nizan, merci infiniment d'être passé dans notre studio. Ne bougez pas, est-ce que vous savez faire ça tous les deux ? Les deux savent le faire.
C'est parfait.
Alors là, j'en reste comme deux ronds de flanc. Bon, c'est pour lancer les pop news.
Et qui dit nanar, notre thématique du jour implique un accompagnement musical adéquat. C'est donc l'occasion, parce que ça faisait longtemps, de prendre connaissance de la dernière création de la chaîne Shitty Flute, qui reprend donc des classiques avec des instruments à vent. Le mot a une signification particulière. Voici donc pour vous le Sharp Dressed Man des ZZ Top, revu et corrigé. Vos oreilles saignent ?
Non.
C'est normal.
Annonce royale, donc musique contractuelle. Son Altesse Alexandre Astier a tweeté hier au-dessus d'une photo de coucher de soleil sur un désert. Je cite « Voilà où le tournage commence dans quelques jours. Kaamelott, premier volet. Hashtag Kaamelott, premier volet. Hashtag cinéma. Hashtag 2020. Hashtag Alexa 65. Bientôt, Arthur sera de nouveau un héros. » Fin de royale citation. Kaamelott le film. Ça y est, c'est parti.
Quand vous comprenez pas. Vous dites, c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète.
Les nominations pour les Césars 2019 ont été annoncées ce matin et les deux films les plus plébiscités sont avec 10 nominations jusqu'à La Garde de Xavier Legrand qui concourt notamment dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice pour Léa Drucker et acteur pour Denis Ménochet ainsi que meilleur espoir masculin pour le jeune Thomas Gloria. Jusqu'à La Garde qui est à égalité avec Le Grand Bain de Gilles Lelouch, est nommé catégorie meilleur film, meilleures actrices dans un second rôle pour Leïla Bekti, Virginie Efira, meilleurs acteurs dans un second rôle pour Philippe Catherine, Joy Ganglade, meilleur film, meilleur réalisateur. Gilles Lelouch est lui-même nommé catégorie meilleur comédien pour Pupille. Bref, Belle Père fait parmi les autres raisons de se réjouir. Oui, je suis partiale. La présence de Vincent Lacoste chez les meilleurs acteurs pour Amanda, la nomination d'Astérix de Notre Altesse, catégorie meilleur film d'animation, et celle de Karim Leclou et William Lebguil dans Les Espoirs. Merci Paris, c'est tout pour moi. Résultat le 22 février.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Ah, je l'ai pas.
Spock.
Ah bah oui, mais parce que vous n'avez pas fait le geste, c'est pour ça c'est confusant. Je vois pas l'oreille, je vois pas le geste, je peux pas la voir.
Merci Charline. Avant de laisser la scène mythique de Pop-Pop-Pop au groupe de rock américain Rival Sons, dans quelques instants, écoutons-les avec ce morceau « Do Your Worst ».
That stranger coming up ahead, and you don't recognize him. I know your picture well, and got a voice like sugar, sugar in your tea. And he could sing you in a song, I sing it sweeter than me. Blind your eyes, steal your tongue, you'll take it when you're older. Money locks on you. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't first. Take my body and do your worst. Oh my baby,
your eyes, steal your tongue, get you in your own now.
Your Worst, c'est le single du nouvel album des Rival Sons, Feral Roots, qui sort après-demain. Et on écoutera tout à l'heure le même morceau en version acoustique. C'est un cadeau pop pop pop. Car oui, vous écoutez pop pop pop, l'émission...
Oh, pour une fois, je peux le faire.
Allez-y, Charlie.
Vous écoutez pop pop pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ouais, j'arrive pas à le faire. Reprenez, Antoine. Bon.
Jay Scott, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes des fers de lance, au même titre que Jack White ou les Black Keys des débuts, de ce qu'on appelle toujours le rock'n'roll. On vit à une époque où la musique est divisée en genres et en sous-genres. À quoi correspond l'idée que vous faites du rock'n'roll aujourd'hui?
Ça,
c'est une question vraiment très large.
Any sense of responsibility toward the art?
Tout sens de la responsabilité par rapport à ce que c'est que l'art, de ce genre qu'est le rock'n'roll. On sait bien que nous sommes les gardiens de la flamme pour la passer à la génération suivante. Et puis au final, je pense qu'on essaie tout simplement de rester authentique à l'intérieur des paramètres de ce genre.
Donc en fait, quand vous parlez de préserver la flamme, ça veut dire que cette flamme-là n'est pas menacée, quand bien même la musique dominante aujourd'hui, la scène musicale est largement dominée par le hip-hop.
Ce qui peut menacer le rock'n'roll, c'est le mauvais rock. Tant qu'il y a du bon rock, alors le genre vraiment se portera bien. Pour répondre, je crois que le hip-hop en particulier,
what is a wonderful thing.
Et ça, c'est épatant.
Is that hip-hop has rock and roll roots.
Hip-hop mm-hmm. a des racines rock.
Et d'ailleurs, vous écoutez quoi en tourbus?
We're pretty eclectic.
Oh, yeah,
on est assez éclectique.
We have hip-hop to
hip-hop,
jazz, classical jazz, to Cambodian
musique,
folk music,
tons
to
of rock
classique,
and roll.
Beaucoup de rock, de la musique classique cambodgienne.
Appalachian music and
la musique appalache
and to rock and roll
et du rock and roll.
Rock, all of it.
I always say, like, you know, when you're on iTunes or something,
and
you pull down the genre
iTunes,
bar and all those.
On voit tous ces groupes de genres.
Like genres
il y en avait 10
like
avant,
et
maintenant il y en a 50.
Like...
Vous jouez toujours aussi fort sur scène ou vous baissez un petit peu le volume avec le temps?
Yes.
Oui.
Wait, what?
Quoi?
Huh? What?
Feral Roots est votre sixième album en 10 ans, ce qui donne une vitesse de croisière appréciable, surtout considérant que vous passez littéralement votre vie sur la route. Est-ce que l'expérience des concerts joue sur votre approche des enregistrements?
Oui, parce qu'on a de l'expérience, et puis qu'on joue vraiment très souvent, vraiment beaucoup.
Nothing can replace
experience.
You know, you can't manufacture.
On peut pas fabriquer les choses.
But I don't think it affects how we record actually.
Mais je pense pas que ça change vraiment notre façon d'enregistrer. Non.
I would say
moi je dirais
it affects it.
Que oui, il y a une influence énormément.
And this all of this time, all of this touring.
Et pendant
cette
tournée,
living a life, being afforded the life,
comme on a
the luxury
la chance,
of a life that is so
de vivre une vie qui est tellement proche de la musique.
I think that living, eat, sleep and breathe music.
De respirer et de boire et de manger cette musique tout le temps.
It takes any fear or anxiety.
Ça retire toute peur, toute anxiété quand l'on rentre dans le studio.
And so you can just act and we can just
communicate. Et du coup, on peut simplement communiquer, être ensemble, être nous-mêmes.
On parle d'expérience et de rock'n'roll. Vous avez passé un long moment sur les routes avec Black Sabbath puisque vous avez accompagné leur tournée d'adieu. Quel genre d'expérience est-ce que c'était pour vous?
It was really amazing because it's basically touring on the biggest level.
Parce que c'était vraiment jouer de la basse à un niveau extraordinaire.
And it's a class at, like where we want to be, like
c'était vraiment on voulait en être là, on voulait en arriver là. Et pendant 13 mois de suivre cette ambiance là et d'être avec eux et de le faire pour de vrai, c'était un rêve.
That education, they gave us an education that you can't get in any school,
quelque chose que l'on trouve pas dans les écoles.
To watch these giants
et de regarder ces géants jouer tous les soirs.
And to give us the opportunity,
et qu'ils nous donnent la chance de vivre dans une immense salle de concert chaque soir. Ils nous ont mis vraiment dans la position de nous y habituer. Et il
n'y
a pas d'autre façon d'avoir que l'expérience pour arriver à vivre ça. Ils nous ont donné cette chance de nous entraîner, de nous répéter.
Vous avez, vous aussi, une armée de fans qui vous suit à travers le monde. Vous remplissez partout où vous passez, au point qu'on a l'impression d'une véritable communauté. Est-ce que vous échangez des impressions, des commentaires, après concert ou avant, avec eux?
Well, the nice answer would be yes.
C'est très gentil de répondre oui.
But that wouldn't be true.
Mais ce serait pas vrai.
I will interface with fans, and every once in a while,
j'échange avec les fans de temps en temps.
To
je réponds
and things,
à leurs lettres, etc.
I have found that allowing myself to be too accessible is damaging.
D'être trop accessible, ça me pose problème.
And that's not to say, you know, there are so many great people.
Il y a des gens qui sont
intentions.
Très sympas et dont les intentions sont épatantes, bien sûr.
But if you listen to people's opinions,
mais si on écoute l'opinion des gens tout le temps, vous devenez à la merci de sans cesse revenir en arrière.
And that's just not something I want to live with.
Et c'est pas quelque chose
well,
avec lequel je vais vivre.
Really,
Scott,
these kinds of people
concrètement,
that we like,
les gens que l'on aime bien,
stars,
comme les vedettes de cinéma,
musicians,
les musiciens,
artists,
les artistes en général,
people that attain some level of fame,
des gens qui atteignent une célébrité, comme ça. C'est difficile pour le public parce que le public n'interfère pas vraiment facilement avec
eux.
Et quelque part, il y a un mur et quelque part, il est sain sur
un mur.
On fait ce qu'on a à faire, on fait de la musique et on n'a jamais voulu tout mélanger. Et tous les soirs, interagir avec le public, bon, alors qu'on est sur scène, ça, on le fait, ça existe. Mais il existe un mur et c'est un mur qui est plutôt sain.
Feral Roots, le nouvel album, est toujours produit par Def Cobb, c'est le même producteur, le cinquième qu'il fait avec vous. Comment construisez-vous ensemble ce son à la fois original et référencé?
No, it was completely natural.
Complètement naturellement, oui.
I think it also lends itself to what Jay was saying earlier.
Puis, c'est ce que Jay disait.
You start out in the studio,
on commence dans le studio.
Heroes.
On commence en se lançant.
So
et on arrive quand même avec des idées. On écoute une guitare, on écoute petit à petit, on avance comme ça. Il y a des artistes que l'on écoute ensemble et dont on est inspiré. Mais c'est vraiment faire de la musique ensemble. Et on écrit des chansons qui viennent du cœur.
Dave Cobb
a ses machines, tout le temps il précise notre son, il nous relance, et quand on se rassemble, on est en grande interaction.
Jay Scott, avec les Rival Sons, une fois de plus, vous avez soigné le visuel du nouvel album. On doit la pochette cette fois-ci à Martin Whitfoot, un illustrateur américain. Ça représente un énorme chien aux yeux rouges, tout croc dehors, un petit peu mort on dirait, et qui repose au milieu d'une jungle luxuriante. C'est quoi l'idée? C'est l'état de l'Amérique ces jours-ci ou c'est juste une image étrange?
L'idée,
c'est
que le chien ne peut pas mourir parce qu'il s'agit de transformation.
Why don't you pick it up, Jay?
Well, we have to start with the underlying narrative.
Il faut qu'on commencer par l'histoire, quelque part, sur Feral Roots.
Particularly the term Feral Roots.
Surtout ce terme.
It is about a return to form.
Ça parle d'un retour vers la forme.
Within our growing world community now because we live in a global
community. Dans une communauté du monde qui est sans cesse grandit parce qu'on vit dans un monde qui progresse et qui avance. Et on regarde l'histoire de l'humanité.
This global community is in its infancy.
Cette communauté internationale globale, elle est vraiment à ses débuts.
And we're having growing pains on
et
technology
on trouve des problèmes de plus en plus. Des stimulations, de la technologie, des informations.
And I think because of that, there is a calling to a return to form.
Une envie de revenir à la forme.
Well, our purest form, our broken down, rawest creature.
A return, yes, a return
quelque chose qui soit vraiment très naturel au format,
base,
du début,
essence.
You à notre essence.
I wouldn't explain Martin's painting to
je ne peux pas expliquer le tableau de Martin, le design de Martin pour la pochette. Je n'ai pas envie de mettre des mots sur ce qu'il a dessiné. Mais pour moi, quand je le regarde, on voit vraiment un chien domestique qui retourne à l'état sauvage. Et il est là, allongé. C'est une chienne. On peut voir
coming out and feeding
toutes les autres créatures qui arrivent et qui viennent se nourrir.
And that is absolutely
et ça,
return
c'est
to form.
Vraiment le retour à la forme.
Martin and I had
et Martin
many
et moi,
discussions.
On en a beaucoup discuté de
we
ça.
Sent him the demos
on lui a envoyé les démos de
and
nos chansons.
Began a dialogue
et on sait comment c'était le début d'un dialogue il y a longtemps
about the name
sur
of the record and about
le titre du disque,
the ethos of the
et puis tout l'éthos, tout ce qui sous-tend tout le disque.
That he made this art and these images based
solely
on our music.
I think he had this image vient simplement de notre musique, mais qu'il avait cette idée dans sa tête quelque part.
Let this idea out,
et ça lui a donné l'excuse, la possibilité de sortir cette image, de la créer.
Bien, merci Jay Buchanan et Scott Holliday. Vous nous aviez promis de jouer un morceau ici. Je vous suggère donc la version acoustique du single Do Your Worst. Je vous laisse vous installer sur la scène de Pop 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 et après mon pop, c'est à vous. Vous êtes d'accord?
Yeah. Okay.
Vous êtes prêts?
Yeah.
Et...
stranger coming over here, and if you don't recognize him, I know you'll preach you well. He's got a voice like sugar, sugar in your tea. He can sing and win a song now, sing it sweeter than me. Blind your eyes, steal your tongue, it'll take you when you're older. But it likes some young. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't move. Take my body and do yours. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't move. Track. I can hear your mama, she's calling you back. Gonna hit you like a fever, fever dream. Gonna touch you like a thief and leave your pockets clean. Blind your eyes, steal your tongue. It'll take you when you're old, but it locks some young.
Alors, c'était interprété sur la scène Pop 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 par le groupe Rival Sons. Merci, merci messieurs.
Merci.
Bon, So Bad It's Good, le doc de Stéphane Bergougnou et Jean-Marie Nizan, c'est sur Canal Plus samedi soir à 22h30. Feral Roots, votre album les Rival Sons, ça sort vendredi chez Warner. J'en profite pour annoncer que vous serez en concert le 9 février prochain au Bataclan, le 10 à La Rochelle et à Lyon le, je ne sais pas combien, le 12 je crois. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Maxime Ingrand, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, Harold Manning à la traduction et Alice Delcourt, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop.
Morning, 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 morning.
Oui, bon, ça va, on a compris. Wow. Jimmy Page est dans Pop 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 et c'est une exclue. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yov à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos nanars sur YouTube.
En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule.
Oui, ça veut dire abonnez-vous à notre podcast.
On a perdu tout le monde, merci beaucoup.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 36-15, pop, 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 sur Instagram et Twitter.